Êtes-vous déjà allé aux ventes dans une vente aux enchères? Et que c'est énervant. C'est vraiment énervant et c'est incroyable le nombre, l'argent que les gens sont prêts à dépenser pour acheter des pièces de collection ou des vieux objets, et particulièrement des vieux livres. D'ailleurs, je vais vous donner un exemple. Il y a 5 ans, la Bible, entre autres, il y a 5 ans, il y avait une vente aux enchères et quelqu'un a acheté une copie du livre des psaumes qui remonte au 17e siècle. Savez-vous comment est-ce qu'il a payé? 14 millions de dollars. Hey, c'est quelque chose, là. Alors, je tiens à vous dire que votre Bible aujourd'hui, là, dans 4 siècles, là, vous allez être millionnaire, là. Donc, gardez-la précieusement, là, d'accord? Ça va valoir cher, cette affaire-là, là. C'est tout un livre, ça. Bon. Alors, on sait bien que la valeur d'un livre, de la Bible, surtout, la valeur de la Bible, ce n'est pas le prix qu'on achète, qu'on dépense pour se l'approprier. C'est pas ça qui en fait la valeur. C'est la Bible, c'est la parole de Dieu, une parole qui est inspirée de Dieu. Et c'est ce qui fait sa valeur. Notamment, comme on a vu tantôt, le livre des psaumes. Mais vous savez, le livre des psaumes, c'est un des nombreux livres qu'on va retrouver dans la Bible. La Bible, c'est un rassemblement de 66 livres. Tous sont inspirés. Et il y a différents genres dans tous ces livres-là. Par exemple, il y a un livre qui a été écrit qui est, je vais te demander si tu veux avancer la diapo, je ne l'ai pas ici. Oui, le nouveau regard sur la Bible. Et c'est un livre qui, justement, nous aide. Gordon Fee a écrit ce livre-là afin de nous aider à comprendre les différents genres dans les Écritures. Donc, il y a différents genres, les livres poétiques comme les psaumes, les livres apocalyptiques comme Apocalypse et Daniel sont des livres prophétiques. On pense à des livres historiques dans l'Ancien Testament, les Évangiles, les Épîtres, des livres d'enseignement. Alors, ce monsieur nous aide vraiment à mieux comprendre les différents genres des Écritures. Et un des livres, justement, c'est le livre des psaumes. Et le livre des psaumes, c'est vraiment un recueil de chants inspirés par Dieu, qui a été destiné au peuple d'Israël en premier lieu pour leur permettre d'aller adorer Dieu. Et vraiment, c'est une adoration publique en Israël que Dieu avait donné ce livre. Mais, vous savez, on ne faisait pas juste lire les psaumes, on les chantait, et on les chantait quotidiennement, et la raison, c'est qu'on ingérait, finalement, les leçons des psaumes, on les apprenait par cœur, on les chantait, et ça façonnait notre vie, ça pouvait s'approcher de Dieu, et cela, vraiment, nous permettait, c'est ce qui explique, plutôt, ce qui est arrivé lorsque Jésus est arrivé à Jérusalem, et là, tu as la foule, ce qu'on appelle l'entrée triomphale de Jésus. Et tout d'un coup, comme ça, la foule à Jérusalem commence à chanter des louanges et même un extrait de psaumes. Et parce que ça faisait partie de la culture, on récitait, on apprenait les psaumes. D'ailleurs, on a besoin nous-mêmes aujourd'hui de nous immerger dans le livre des psaumes afin que ça façonne, ça va nous aider, nous accompagner afin de façonner notre relation avec Dieu. Les psaumes sont un des instruments, l'instrument que Dieu a prévu pour nous aider à nous approcher de Dieu, de lui. Et c'est ce qu'on veut faire ce matin. On veut s'arrêter sur un des psaumes et ça va être le psaume 81. Et on veut regarder le psaume 81 ensemble. Maintenant, si vous avez votre Bible, je vous invite à tourner dans le psaume 81. Je vais juste vous mettre la table un peu sur ce qui se passe dans le psaume 81. Ça va nous aider à mieux apprécier la lecture qu'on va faire en lisant le psaume 81. Parce que si on est moins familier, ça peut comme être déroutant. Mais laissez-moi juste vous donner un peu, vous expliquer un peu ce qui se passe dans ce psaume-là. C'est un psaume qu'on chantait alors d'une des fêtes en Israël. Dieu avait donné quelques fêtes au peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, afin que chaque année, on puisse célébrer pendant quelques jours certaines fêtes, c'est ce qu'on appelle les fêtes juives. Et la raison pour ça, c'est que Dieu voulait qu'on se souvienne de certains événements qui ont eu lieu dans l'Ancien Testament, où Dieu a été fidèle à s'occuper, à prendre soin de son peuple, à quel point il a montré son amour et sa grâce, sa miséricorde envers son peuple. Et le psaume 81, entre autres, est une des fêtes juives qu'on appelle la fête des tabernacles, ou autrement dit, la fête des tentes, la fête de Sukkot chez les Juifs. D'ailleurs, même les Juifs vont fêter cela encore aujourd'hui, en automne, prochainement. Et c'est, on veut remémorer ensemble, et ça, c'était le but premier de ce psaume, de la fête du tabernacle, c'est de se souvenir la libération des Juifs de l'Égypte, de l'esclavage en Égypte, et comment Dieu a pris soin d'Israël pendant ce long voyage de 40 ans à travers le désert pour ramener son peuple dans la terre promise. D'accord? Alors, ce que vous allez voir, on va lire le psaume, et vous allez voir qu'il s'agit de cette fête qui commence. Le prêtre qui sonne le shofar, qu'on lit dans notre version la trompette, c'est le début officiel de cette fête des tentes qui va commencer. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à travers ces fêtes, non seulement Dieu voulait qu'on célèbre et qu'on glorifie et qu'on se souvienne de comment Dieu avait pris soin de son peuple, mais à travers ce psaume et à travers ces fêtes, Dieu a un enseignement à nous donner. C'est comme si Dieu pointe du doigt un événement qui a eu lieu dans le passé et il dit à son peuple, « Regardez ce qui s'est passé là. Regardez mon peuple, comment ils ont agi, comment j'étais bon envers eux et comment ils m'ont méprisé, ils ont tourné le dos, ils ont été rebelles, ils n'ont pas passé le test de la foi, ils se sont détournés de moi. Et malgré ça, j'ai manifesté ma bonté et ma grâce envers eux. » Alors, apprenez de ces événements. D'ailleurs, Paul dira dans 1 Corinthiens, « Ces choses sont arrivées afin de nous servir d'exemple, afin de nous enseigner. » Alors, c'est ce qui se passe ici dans ce psaume 81. D'accord? Au chef de chœur sur la guitite d'Asaph. Chantez avec allégresse vers Dieu notre force. Poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob. Entonnez un chant. Faites résonner le tambourin, la harpe mélodieuse et le luth. Sonnez la trompette au début du mois, à la pleine lune, pour le jour de notre fête. En effet, c'est une prescription pour Israël, une règle pour le Dieu de Jacob. Il en a fait une instruction pour Joseph quand il s'est attaqué à l'Égypte. J'entends un langage qui m'est inconnu. J'ai déchargé son épaule du fardeau et ses mains ont lâché la corbeille. Vous savez, cette corbeille, hein, on fabriquait les briques et tout ça, et Dieu est venu les délivrer de cela. Tu as crié dans la détresse, verset 8, et je t'ai délivré. Je t'ai répondu au cœur de l'orage. Je t'ai mis à l'épreuve près des eaux de Meriba. Écoute mon peuple et je t'avertirai. Israël, si seulement tu m'écoutais, qu'il n'y ait au milieu de toi aucun autre Dieu. Ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Mais mon peuple ne m'a pas écouté. Israël n'a pas voulu de moi. Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur et ils ont suivi leur propre projet. Si seulement mon peuple m'écoutait, si seulement Israël marchait dans mes voies, en un instant, j'humilierais leurs ennemis, je tournerais ma main contre leurs adversaires. Ceux qui détestent l'Éternel le flatteraient, et le bonheur d'Israël durerait toujours. Je le nourrirais du meilleur blé, et je le rassasierais de miel du rocher. Certaines traductions disent miel sauvage, mais l'idée dans l'original, c'est le miel du rocher. Voici un psaume qui nous appelle à glorifier Dieu. C'est un psaume, le message du psaume 81, c'est un appel à glorifier Dieu. Et ce que nous allons voir à travers ce psaume, finalement, c'est que nous allons apprendre qu'il y a deux manières à glorifier Dieu. Premièrement, avec des chants de louange, comme on a fait ce matin, avec des chants de louange, mais aussi, encore mieux, avec notre obéissance. D'abord, on glorifie Dieu avec des chants de louange. Regardez le verset 2. « Chantez avec allégresse vers Dieu. » Le psaume commence en s'adressant à trois groupes de personnes. Tout d'abord, à la grande assemblée, où Dieu dit « Chantez, tout le monde, chantez. » C'est un appel à venir apporter des louanges à Dieu. Tout de suite après, on parle d'instruments. Donc, il s'adresse aux Lévites qui s'occupaient dans l'Ancien Testament d'apporter la musique, d'appuyer les chants avec la musique. Et troisièmement, au prêtre qui sonnait finalement la trompette, le chauffard, pour donner le signal que la fête commence, cette fête du tabernacle. Alors, on glorifie le Seigneur avec des chants de louange. On nous explique même comment le faire. On nous explique même comment louer Dieu. Eh bien, on loue Dieu, on chante à Dieu avec allégresse. En d'autres mots, on oublie là, ce qui se passe. On oublie les troubles qu'on a au cours de la semaine. Dieu est en premier. On veut l'élever, le glorifier. On chante avec joie et avec allégresse. Deuxièmement, il dit, on chante des louanges à Dieu avec quoi? Avec quoi? Des cris de joie. Mon ami, j'ai pensé que je faisais une erreur. J'ai dit, pour moi, j'ai fait une erreur. Je suis dans une église baptiste. Moi, là, c'est quoi cette affaire-là? J'aime bien comment la version, la Bible, le français courant le dit. Ça dit, criez votre joie à Dieu, notre protecteur. Faites une ovation aux yeux de Jacob. Hey, c'est un standing ovation à Dieu, ça. Wow! Faites un standing ovation à Dieu. Mon ami, j'ai dit, non, écoute, il doit y avoir une petite parenthèse, quelque chose. Sauf, je pensais de lire, sauf les baptistes du sentier. Mais je sais que ce n'est pas ça que ça dit. Parce qu'il y a un autre psaume qui dit, le psaume 66, qui dit ceci. À un moment donné, ça va avancer. On va l'avoir. Pousser, oui. Non, comment ça que ça ferme? Oui. Pousser, là, je vais recevoir des textos de ma fille qui écoute ce matin à la maison, parce que je pense que c'est malade, quelque chose, ne pouvait pas aller à l'église. Donc, là, elle va me dire, « Papa, ça ne marchait pas ton PowerPoint. » Je le sais, chérie, je t'excuse. Psaume 66 dit ceci, « Poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. » Mes chers amis, aux dernières nouvelles, Gatineau fait partie de toute la terre. Amen. Alors, est-ce qu'on fait un standing ovation à Dieu? Ah oui! Amen. Oh, vous êtes capables, j'ai confiance en vous. Plus fort que ça. Amen. Alléluia, j'entends des alléluia. Gloire à Dieu. C'est bon. Hey, merci beaucoup. Gloire à Dieu. Gilles, arrête de danser. Calme-toi. Il faut le retenir à chaque fois. Là. C'est comme pas vivable. C'est terrible. Fais un standing ovation à Dieu. Voilà comment on loue Dieu. Alors, on chante des louanges à Dieu. Avec allégresse. Avec des cris de joie. Et avec des instruments de musique. Avez-vous lu ça? Des guitares électriques, des drums, puis let's go, flûte traversière et tout ça. C'est ça que ça dit. Vous n'avez pas vu ça, verset 3? C'est ça que ça dit. Alors, c'est comme ça qu'on loue le Seigneur. On loue le Seigneur. On glorifie le Seigneur en lui offrant des chants de louange. Mais on glorifie le Seigneur encore plus aussi par notre obéissance. Voici un cri du cœur de la part de Dieu. On voit la peine ici, le cri de son cœur. On voit qu'il brûle d'envie de bénir ses enfants. On voit là vraiment comme un Dieu qui veut tellement faire du bien à ses enfants. Ça dit au verset 9, « Écoute, mon peuple, et je t'avertirai, Israël, si seulement tu m'écoutais. » Le mot « écouter » veut dire « obéir ». D'ailleurs, il est traduit comme ça plus de 80 fois dans les Écritures par le mot « obéir ». C'est un cri du cœur de la part de Dieu. Et pourquoi c'est si important de suivre le Seigneur, de marcher avec lui, de l'obéir? Pourquoi c'est si important? C'est pour notre bien. Et c'est Dieu qui l'a dit. C'est pour notre bien. On veut glorifier Dieu en suivant sa parole, car il satisfait les besoins les plus profonds de notre cœur. C'est comme si Dieu dit, écoute, j'aimerais, et c'est vrai pour Israël, je vous ai béni, j'ai pris soin de vous en Israël, dans le désert, mais j'aurais aimé faire plus encore. C'est ça qu'il est en train de dire. C'est pour notre bien, notre obéissance. Tout le psaume 81 est à propos de l'époque, la traversée du désert, et comment Dieu a pris soin de ses enfants. D'ailleurs, le désert, c'est un des thèmes importants qu'on va voir dans les Écritures. On va savoir venir quelques fois. D'ailleurs, la première fois, quand tu rentres dans le Nouveau Testament, la première voix que tu vas entendre, c'est qui? C'est Jean-Baptiste qui crie dans le désert et qui prêche et qui veut amener le peuple à venir dans le désert, s'approcher de Dieu, s'humilier, se repentir. et s'approcher de Dieu, se faire baptiser. On voit Jésus commencer son ministère, comment il va aller dans le désert pendant 40 jours, où il sera exposé aux tentations du diable. Et pendant 40 jours, pourquoi 40? Ça fait un lien avec les 40 ans dans le désert. Si le peuple d'Israël n'a pas passé le test, Jésus, lui, a passé le test pour nous dans les 40 jours où il a passé dans le désert, où il a été affronté, confronté par des tentations les plus difficiles, inimaginables par le diable. Et il a été fidèle. Mais on le voit encore dans le désert. D'ailleurs, quand tu tournes dans le livre aux Hébreux, ce que nous allons voir, c'est que particulièrement chapitre 3 et chapitre 4, mais tout le livre aux Hébreux a ce thème. C'est comme si Dieu veut nous amener à voir notre vie comme si, notre vie actuelle, comme si on vivait dans le désert. Parce que, en fait, ce monde est comme un désert. Et le Seigneur veut nous aider à voir notre vie actuelle comme passager, momentané. Et même, on a le Seigneur, même si on a le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie, même si Jésus nous a donné la vie éternelle, le pardon de nos péchés, nous sommes en route, en voyage, nous sommes des pèlerins ici sur terre. La Bible dit même que nous sommes des étrangers en voyage et on se dirige vers la terre promise. Ce n'est pas ici la terre promise. Un jour, Jésus va revenir, il va nous prendre avec lui et nous allons entrer dans l'éternité où il n'y a plus de souffrance, plus de deuil, plus rien, plus de mal, juste la joie, le bonheur parfait, sans péché, sans mal. Mais aujourd'hui, c'est un désert. Nous vivons dans le désert. Et qu'est-ce que le Seigneur veut nous montrer en faisant un lien avec le désert et notre vie actuelle? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le désert? C'est toute une image, le désert. C'est qu'on ne peut pas survivre dans le désert. La seule raison que les Juifs ne sont pas morts et qu'ils ont survécu pendant 40 ans dans le désert, c'est par l'intervention surnaturelle de Dieu. N'eût été de la bonté de Dieu, de la grâce de Dieu et les interventions multiples de Dieu, Israël serait mort, n'aurait pas survécu ces 40 ans. Ils ont vécu parce que Dieu leur a donné ce dont ils avaient besoin. Hey, pensez juste à la logistique de prendre soin, de nourrir et donner de l'eau à plus de 2 à 3 millions de personnes chaque jour pendant 40 ans. Quelqu'un a fait le calcul, ça doit être un ingénieur, s'est arrêté pour tout estimer ça. Pensez-y, c'est 4 millions de livres de bouffe à tous les jours pendant 40 ans. C'est 41 millions de litres d'eau par jour pendant 40 ans. Mes chers amis, si Dieu a envoyé dans la place la plus difficile, il n'y a pas de dépanneur dans le désert, si Dieu a pourvu chaque jour à donner 4 millions de livres de bouffe à ce monde et 41 millions de litres d'eau à tous les jours pendant 40 ans, tu penses-tu, juste un instant, qu'il peut prendre soin de toi? Hein? Absolument. Dieu n'est pas à court de ressources. Il est riche. Il a créé la terre. Il n'y a pas de limite. L'être humain ne peut pas survivre dans le désert. Et ce que l'on découvre, c'est que Dieu nous demande de voir notre vie présente comme si on vivait dans le désert. Et tout comme le désert, comme le désert physique ne peut pas soutenir la vie humaine, de même, le monde actuel, comme dans la condition actuelle, présentement, du monde, ne pourra jamais satisfaire les désirs les plus profonds de notre cœur. Ne pourra jamais satisfaire notre besoin, le besoin profond de notre cœur. Ton cœur a soif parce que tu vis dans un désert spirituel. Tu as peut-être essayé bien des choses, mais tu t'aperçois, tu te rends compte finalement que c'est... S'il y a des plaisirs passagers, mais qu'est-ce qui satisfait vraiment ton cœur? J'ai connu quelques millionnaires, et eux-mêmes le disaient, ils disent, Normand, ils disent, je souffre, moi aussi je souffre. OK, ils souffrent confortablement, mais ils souffrent. Okay. Il n'y a pas d'argent, rien pourra satisfaire vraiment les besoins de notre cœur. Rappelez-vous cette discussion entre Jésus et la Samaritaine qui avait souffert plusieurs relations avec quelques hommes, était rendue à quelques mariages déjà, ça n'avait vraiment pas été bien. Alors, elle s'approche de ce puits et Jésus s'assoit près du puits et Jésus va dire, toute personne qui boit de cette eau aura encore soif. En d'autres mots, ce que Jésus est en train de dire, il y a une leçon tellement précieuse ici. Tout ce que la terre peut offrir, des bonnes choses même, c'est Dieu qui a créé la terre, des choses splendides, des beaux plaisirs, la beauté, le paysage, la création, c'est beau. Mais même ça n'est pas suffisant. Et c'est ce que Jésus est en train de dire à cette Samaritaine. Tu penses que c'est l'amour à la Samaritaine? Tu penses que c'est l'amour qui va venir combler les désirs de ton cœur? C'est pas ça. Il dit, toute personne qui boit de cette eau aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. C'est cette eau-là pure qui vient seulement de Dieu, cette eau qui est la vie éternelle, qui est Jésus-Christ. Alors ce monde ne pourra jamais satisfaire tes besoins les plus profonds et les désirs de ton cœur, jamais. Ni ton mariage, ni ta carrière, ni les relations que tu peux avoir, même des relations qui sont superbes. Mariage super, on se réjouit des beaux mariages, absolument. Mais même là, il manque quelque chose. Tout se détériore dans ce monde, tu le sais. On vieillit, on change, on tombe malade, même les plus grands athlètes se détériorent. Et le peuple d'Israël serait mort dans le désert sans l'intervention miraculeuse de Dieu. Et de même, les besoins les plus profonds de ton cœur ne seront jamais satisfaits sans Dieu. C'est l'intervention de Dieu. Le monde est incapable de le faire. Alors, ce dont nous avons besoin, c'est vraiment de nous approcher du rocher. Remarquez ce qui se passe ici dans ce passage. Vraiment intéressant. Il se trouve un rocher dans le désert. Au verset 14, ça dit ceci, « Si seulement mon peuple m'écoutait, si seulement Israël marchait dans mes voies, « je le nourrirai du meilleur blé et je le rassasierai du miel du rocher. » Je le rassasierai du miel du rocher. Le rocher va revenir encore au verset 8. Ça dit, « Je t'ai mis à l'épreuve près des eaux de Mériba. » C'est quoi les eaux de Mériba? Ça fait allusion, vous avez sûrement vu le film de Moïse, les 10 commandements, où à un moment donné, le peuple rouspète, critique, méprise Dieu. Et ils ont soif, ils ne sont pas contents, ils aimeraient revenir en Égypte et tout ça. Et pourtant, l'Égypte, c'était l'esclavage, c'était la misère, la souffrance, ça criait de douleur. Mais là, ils méprisent Dieu. Et malgré cela, à la grande surprise de Moïse, c'est là que Dieu va ouvrir le rocher, puis il y a toute l'eau qui va sortir pour abreuver son peuple. Maintenant, le psaume 78, 14 va dire ceci, « Il les avait guidés le jour par la nuée et toute la nuit par un feu éclatant. Il avait fendu des rochers dans le désert. Il leur avait donné à boire en abondance. » Et verset 16, « Du rocher, il avait fait jaillir des sources et couler de l'eau comme des fleuves. » Absolument, 41 millions de litres d'eau. C'est des fleuves d'eau. Et c'est arrivé à quelques reprises. Et Dieu a fourni de l'eau tous les jours. Et c'est arrivé à quelques reprises. L'eau sortait du rocher. À la fin de sa vie, Moïse, qui avait vécu toute cette expérience en Israël, dans le désert plutôt, avec le peuple, ils avaient conduit pendant ces 40 ans, vers la fin de sa vie, il va dire ceci. Dans Deutéronome 32, il dit, « Oui, je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. » Et verset 4 dit, « Il est le rocher. » Et verset 13, « Il lui fait goûter le miel du rocher et l'huile de la pierre dure. » Verset 15, « Dieu est le rocher de notre salut. » Verset 18, « Dieu est le rocher qui nous met au monde. » Et verset 37, « Dieu est le rocher de notre refuge. » Pourquoi c'est si important un rocher dans le désert? Mais c'est là que tu vas trouver l'eau. Vois-tu, après une pluie, il n'y a pas d'eau qui reste dans le sable, dans le désert. Où ça reste l'eau? Tu vas la retrouver sur les pierres, sur les rochers. C'est là que ça va rester. Et tu vas accourir. Si tu rentres dans le désert, tu es pris dans le désert, la première chose que tu vas faire, tu vas chercher des rochers. C'est là que tu vas accourir pour aller chercher de l'eau. C'est au rocher aussi que tu vas trouver la chaleur. Parce que vois-tu, le jour fait très, très chaud. D'ailleurs, on estime juste le désert de Sahara où ça monte à 50 degrés Celsius à l'ombre. Alors imagine la chaleur et le sable, il y a des raisons scientifiques pour ça, le sable ne retient pas la chaleur du soleil la nuit et il fait très froid. Juste le désert de Sahara peut faire en haut de 50 degrés Celsius le jour à l'ombre et la nuit ça descend en bas de zéro. On a même vu de la neige et de la glace dans le désert de Sahara. Alors qu'est-ce que tu fais la nuit pour te sauver, te réfugier? Le soleil réchauffe les pierres et les rochers. Donc, tu es là, la première place que tu vas aller pour survivre ta nuit, c'est d'aller accourir vers le rocher parce que c'est là qu'il fait chaud. C'est un lieu de refuge. Alors, qu'est-ce que tu fais pour survivre dans le désert? Tu cherches le rocher. Lorsque Moïse va dire « Dieu est notre rocher », voyez-vous ce qu'il est en train de dire? Il est notre refuge, il est notre salut, c'est là qu'on va trouver la sécurité. Même si la vie est un désert sur le plan spirituel, dans ce désert, il existe un rocher. Et parfois, notre vie ressemble à un désert aride où ça va vraiment mal, où on passe à travers des épreuves difficiles. Et c'est très dur, c'est écrasant. Et c'est comme ça qu'on se sent. Eh bien, sache que dans ce désert, Dieu est là. Il est le rocher où tu vas trouver un refuge et de la force. Le verset 2 dit ceci, « Chantez avec allégresse vers Dieu notre force. » Il dit plus loin, « J'ai déchargé ton épaule du fardeau. » Et c'est ce que le Seigneur fait avec nous. Et avez-vous remarqué ce détail vers la fin du psaume? Le rocher nous procure non seulement du soutien, de la protection, d'un refuge, mais le passage nous dit même qu'il se cache du miel dans le rocher. C'est assez extraordinaire. Verset 14, « Si seulement mon peuple m'écoutait, si seulement Israël marchait dans mes voies. » Verset 17, « Je le nourrirai du meilleur blé et je le rassasirai du miel du rocher. » Et ça, c'est assez extraordinaire. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? « Je vais te rassasier du miel du rocher. » Le Seigneur est en train de nous dire qu'au rocher, tu vas trouver plus que ce que tu peux même imaginer. Les bénédictions de Dieu dépassent tout ce que tu peux imaginer. Imaginez ceci, vous êtes dans le désert et tout d'un coup, vous voyez un rocher, vous courez vers le rocher. Vous avez besoin de l'ombre le jour, vous avez besoin de la chaleur la nuit, vous avez besoin de l'eau. Et là, tout d'un coup, tu t'approches du rocher et qu'est-ce que tu vois dans une crevasse? On voyait ça dans les déserts en Israël. Dans les crevasses, tu vois tout d'un coup du miel. Imagine la bénédiction, la surprise de trouver dans la crevasse, dans cette fente du rocher, du miel, alors que tu es dans le désert. Dieu est en train de te dire, vois-tu, même dans ces moments les plus difficiles, les plus arides à travers lesquels tu peux traverser, sache que moi, je peux faire sortir quelque chose de doux à travers même cette épreuve. Amen. Comme du miel. Je peux faire sortir, je peux façonner ton caractère, je peux travailler ton caractère. Je ne gaspillerai pas une épreuve. Je vais te façonner, travailler ton cœur pour que tu puisses sortir de l'épreuve. Si tu marches par la foi, si tu me suis, tu marches avec moi, je te garantis, je te promets, je vais te faire grandir à travers ça. Et à travers cette épreuve, il y a quelque chose de beau qui va sortir. Amen. Et pas juste un peu de miel. Il dit, je vais te rassasier de miel. Et parfois, Dieu permet qu'on passe à travers des déserts. C'est fascinant. Je ne sais pas si vous avez, je sais pas si vous connaissez Éric Emmanuel Schmitt, un auteur très connu à travers le monde. C'est celui qui vend, je pense, le plus de livres francophones à travers le monde entier. Très connu. Il a eu une expérience assez spéciale, une intervention, menée alors qu'il était dans le désert. Il raconte son témoignage à travers ce livre. Il y a 3 ans, je crois, il faisait une entrevue, puis il racontait, il faisait la promotion de son livre. Et voici ce qu'il a dit. En fait, le désert, il était dans le désert et il a trouvé Dieu. C'est-à-dire qu'il y a eu une intervention de Dieu dans sa vie. Il a changé. Et voici ce qu'il dit. Il dit, dans le livre, je raconte mon histoire. C'est-à-dire l'histoire d'un homme de 28 ans qui entre athée dans le désert et qui en ressort croyant. Je raconte l'histoire de ma deuxième naissance. J'ai vraiment le sentiment d'être né de chair en 1960 et d'esprit en 1989, quand je raconte cette nuit de rencontre avec Dieu. Alors parfois, Dieu permet qu'on entre dans une épreuve. Ma femme a connu une épreuve qui l'a conduit à Dieu il y a plusieurs années. Il y a eu une grosse inondation, elle a tout perdu dans son logement et tout ça. On n'était pas mariés à l'époque. Et c'est cette épreuve, écoutez, la frigidaire était de côté. Je sais qu'il y en a qui ne me croiront pas, mais on s'est promené en chaloupe sur le boulevard Cartier à Chemédé à Laval. Et on est entré dans le logement en chaloupe. Je sais, vous allez dire, t'en mets un peu, pantoute. Et c'est à travers cette expérience-là, cette épreuve-là, que Dieu a attendri le cœur de mon épouse, si bien que quelque temps après, elle est venue à Jésus-Christ. Dieu permet peut-être des épreuves dans ta vie en ce moment-là. Peut-être que tu ne connais pas encore, tu n'as pas encore fait ce pas de foi de venir à Jésus. Et Dieu permet peut-être cette épreuve pour qu'aujourd'hui, tu puisses venir à lui. La Bible dit, n'endurcis pas ton cœur le jour du salut. Aujourd'hui est le jour du salut. Viens à Jésus-Christ aujourd'hui. N'attends pas. Et même lorsque nous sommes chrétiens, parfois, on passe à travers des temps, des moments difficiles. Mais c'est à travers ces moments difficiles que Dieu permet qu'on puisse le rencontrer d'une façon très intime lorsqu'on crie à lui, qu'on marche avec lui. Ce que le Seigneur est en train de dire ici, c'est que dans les moments de trouble, il ne donnera pas juste la force pour nous soutenir dans l'épreuve, mais il va faire sortir quelque chose de doux, de meilleur, de bon à travers ça. Si tu suis le Seigneur, alors même que tu es dans le désert, Dieu façonnera ton caractère pour qu'il ressemble encore un peu plus à Jésus. Et voici ce qui est encourageant de savoir. C'est que Jésus est le rocher. Jésus est celui qui a tout fait ce que le psaume 81 demande. Il a été testé, éprouvé dans le désert. Et au cours de sa vie, il a parfaitement obéi. Tout ce que le peuple de Dieu n'a pas réussi à faire pendant ses 40 ans dans le désert, Jésus l'a fait. Le peuple de Dieu, d'Israël, se plaignait, il critiquait Dieu, le méprisait, et il voulait avoir de l'eau, puis il méprisait Dieu, et alors que Dieu avait été fidèle pendant tant d'années. Et là, Dieu dit à Moïse de prendre un bâton et de frapper le rocher. Alors que Moïse s'attendait que le peuple soit jugé pour son mépris, pour sa rébellion. Non, qu'est-ce que Dieu a fait dans sa grâce? A fait couler un fleuve d'eau pour les abreuver. Et pour nous qui avons le Nouveau Testament, nous comprenons cette image et cette leçon. Paul l'a très bien compris. Ce bâton était la justice de Dieu. Et par Jésus-Christ qui va à la croix, qui s'est offert à la croix pour prendre tes péchés, il a subi le bâton de Dieu, il a été jugé par Dieu. Nos péchés ont été transférés sur ses épaules et Dieu l'a puni de sorte que la justice de Jésus-Christ nous a été transférée. Amen. Paul l'a très bien compris dans 1 Corinthiens 10, il va dire, ces gens dans l'Ancien Testament buvaient à un rocher spirituel qui les accompagnait et ce rocher était Christ. C'est une promesse remarquable. Même dans les temps difficiles et la souffrance, ils vont produire une croissance spirituelle et une douce communion avec lui. Et on a l'exemple parfait avec la croix, où la défaite surgit le triomphe, où ce qui est dur, de là sorti du miel, quelque chose de doux, et c'est la vie éternelle. Alors, le Seigneur a tellement de bénédictions en réserve pour chacun d'entre nous. Alors, glorifions-le en chant et en louange, et par en marchant avec lui dans l'obéissance. Amen. Prions. Eh bien, Seigneur notre Dieu, on veut te remercier de tout cœur pour ta parole. Te remercier, Seigneur, parce que tu es tellement fidèle et tu es tellement riche en bonté. Tes bontés se renouvellent chaque matin. On te loue, Seigneur. On te bénit, on te glorifie. On veut te louer encore par ces chants qui suivront. On veut profiter de l'occasion pour prier pour nos enfants qui retournent à l'école. On veut prier pour les professeurs et des professeurs ici dans l'église. On te prie pour eux, que tu puisses les bénir abondamment dans cette nouvelle année scolaire. Et aussi bénir tous les moniteurs et tous les serviteurs ici au sein de l'église qui te servent si fidèlement depuis des années. Et les nouveaux qui s'ajouteront. Ô Seigneur, sois glorifié parmi nous. Au nom de Jésus. Amen.